Et puis, éducateur de rue, ou comment dire, évangéliste de rue, plutôt l'après-midi et le soir, contact avec les marginaux, les prostituées, etc. On a ouvert un café-bar, et donc, en même temps, nous accueillions des personnes que nous voyions dans la rue, dans cette vie communautaire. Donc, la vie communautaire a... Voilà, enfin bon. Donc, l'Église s'est implantée avec ce style de vie communautaire dont on n'entend presque plus parler, je dirais, aujourd'hui et de nos jours. Appelée par le Seigneur à partir plus loin pour implanter une autre Église, je suis donc parti à Angers, ville que je ne connaissais pas. Nous avons même, avec mon épouse, dû faire un détour... pour connaître, savoir la ville, et c'est en marchant dans les rues piétonnes que, rejoignant mon épouse et les enfants qui étaient restés dans la voiture, je lui ai dit « c'est là ». Mais alors quand c'était là, c'était au mois de juillet, fin juillet, pour une arrivée sur Angers début octobre. Je connaissais les personnes, il fallait à nouveau... Là, président de notre fédération a dit « Vous voulez aller à Angers, c'est très bien, mais nous n'avons pas de soutien. Ben, avec ou sans soutien financier, ben, on y va. » Voilà comment on a commencé, je dirais, l'église à Angers, où nous avons trouvé un couple qui était déjà là. Le président a dit « Tiens, si tu vas à Angers, il y a un couple par là, qui nous a donné un coup de main, heureusement qu'ils étaient là, même si... j'ai eu passablement de difficultés, je dirais, avec le couple en question, parce que, c'est juste une parenthèse, mais c'est parce que le frère en question était ingénieur, et moi j'étais petit pâtissier, et c'était difficile pour l'ingénieur d'accepter que ce soit le pâtissier qui soit le pasteur. C'est, bon, voilà, ça arrive, hein, mais bon. Cela dit, pareillement, hein, on a commencé, je dirais, j'ai pris un travail séculier pendant 7 ans, alors ça a été des temps de chômage, des temps où je pouvais travailler, un moment où je travaillais seulement à mi-temps, parce que, c'est pareil, il fallait en même temps nourrir la famille, j'avais 2 enfants, puis 3, et puis avec mon épouse, nous accueillions aussi des marginaux, des gens en difficulté, des toxicos. Et quand je dis accueillir, c'est que le premier qui est resté chez nous, il est resté 13 mois, quoi. Hein. C'était pas simplement une semaine comme ça en passant. C'était une fille toxico qui sniffait notre éther qu'elle avait pris par-ci par-là. Enfin bon, le dernier qu'on a pris, c'est un gars qui était en train de mourir du sida en prison, et nous avons demandé au président de la République une grâce présidentielle pour qu'il vienne mourir chez nous à la maison plutôt qu'en prison. Donc ça avait fait à l'époque un certain bruit, parce que c'était le début, j'allais dire, du sida, et les gens ne comprenaient pas que nous acceptions de prendre un détenu réputé très dangereux, qui avait cassé la figure à plusieurs surveillants, qui avait encore pas mal d'années à faire, et qu'on le prenne comme ça chez nous. Enfin bon, donc Angers, on a donc commencé dans notre appartement, hein, et puis nous avons, au fur et à mesure de l'évangélisation, surtout de l'évangélisation de rue, mais pas seulement, il y avait des films, il y avait, enfin bon, tout ce qui se présentait, on a monté un chapiteau, on était 5-6 sous un chapiteau de 300 personnes, c'était pas le pied, quoi, hein, on n'a pas très bien été accueillis par les églises du coin. Pas du tout, même, d'ailleurs, bien. Alors, c'est pour ça que je milite et que je dis, mais si il est possible, donnons un coup de main à ceux qui arrivent, quoi, hein, parce que c'est quand même trop dur et trop difficile. Et quand on avait un coup de pompe et que c'était difficile, eh ben, il nous fallait faire 130 km pour aller jusqu'à Poitiers et 130 pour revenir, pour trouver quelqu'un qui voulait bien prier avec nous. Donc, bon, voilà, un peu hard, hein, le travail de pionnier. Mais... on a eu la grâce, par la grâce du Seigneur, la possibilité d'acheter une ancienne menuiserie dans laquelle on a construit l'église. Alors c'est je vous dis ça, c'est, je me mets pas en valeur, mais nous avions demandé à un chrétien, un architecte chrétien de venir nous faire les plans, on voulait faire un presbytère, et lui voulait que le presbytère soit de plein pied, et j'ai dit, bah non, vous êtes en train de me bouffer mes mètres carrés, là. Alors il me dit, bah, rendez compte, vous êtes 18, que je vous fais une salle d'une centaine de personnes. Alors je dis, mais moi, je suis en train de construire cette salle-là, et je me demande déjà comment le Seigneur va faire quand ce sera trop petit. Alors, bah, il a dit que c'était pas possible de travailler avec moi, il a fallu qu'on prenne un architecte non chrétien qui fasse ce qu'on voulait, et il y a moins d'un mois dans l'église, nous étions 280 et on savait plus où mettre les gens, quoi, hein. Donc, bon. De là, alors que notre église était quand même encore toute petite, 40 personnes, il y a eu une opportunité, on va dire ça comme ça, pour aller implanter une église à Laval, parce que notre fédération avait un bâtiment et voulait le vendre. Alors j'ai dit, mais si vous vendez le bâtiment à Laval, on ne fera plus d'église. Alors on dit, ben non, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben on y va. Donc tout en restant à Angers, nous sommes avec mon épouse allés toutes les semaines à Laval, qui était quand même 80 km de là, tous les 15 jours pardon, pour une réunion de semaine, et tous les 15 jours aussi, non, toutes les semaines pardon, pour une réunion de semaine, et tous les 15 jours pour un culte. Alors que l'église n'était pas franchement formée, quoi, hein, une quarantaine de personnes, c'était pas suffisant. Et en même temps, j'ai eu la responsabilité des aumôneries à la prison, et puis dans les hôpitaux. Et puis plus tard, donc... Mais c'est pas parce que je voulais centraliser, hein, mais je suis aussi aumônier à l'armée maintenant. Donc nous avons implanté cette église aussi à Laval. Donc je ne parlerai pas de travail d'annexe parce que c'est plutôt Marc qui le fera. Quelques autres implantations d'églises, par exemple à Perpignan ou à Clermont-Ferrand, il y a des églises qui ont été fondées, implantées au travers d'une librairie chrétienne. Magasin, librairie, et au travers de la librairie, il y a eu implantation d'une église, bon, pour vous dire la diversité. Dans la région de Lille, j'ai vu l'implantation d'une église faite par des clubs d'enfants. Alors c'est vrai que le pasteur en avait déjà 7 ou 8 ou 9, bon, ça faisait déjà pas mal, hein, mais bon, au fur et à mesure, je dirais, de ce qu'il faisait avec les enfants, eh bien l'église est née. Bon, c'est une autre manière de faire. À Joinville, l'église de Joinville, c'est une église mère qui a donné une quarantaine de ses membres pour aller implanter une église à Joinville. Alors c'est quand même beaucoup plus facile, hein. À Nantes, l'église de la Bonne Nouvelle de Strasbourg a donné, me semble-t-il, 2 couples et un célibataire, enfin 5-6 personnes. Directement, ils sont allés à Nantes, et puis ils étaient déjà en équipe, ils étaient déjà formés ensemble pour commencer une église. Et bon, voilà les choses un peu diverses. Je vais m'arrêter là, simplement en parlant quand même d'églises implantées au travers de groupes de maisons, et entre autres, je veux dire, dans la région parisienne, mais je pense aussi à ces implantations qu'il y a dans le sud, donc plusieurs implantations d'églises au travers des groupes de maisons. Donc je laisse la place pour parler des annexes.
Voilà, alors, dans les assemblées de Dieu, la méthode, si on peut dire comme ça, qui a été prise, je ne sais pas si ça a été vraiment très réfléchi, mais ça s'est fait souvent comme ça, en fait, c'est plutôt la méthode des annexes, c'est-à-dire une église qui se constitue, va, parce qu'il y a des chrétiens qui habitent dans un coin d'une ville, ou parfois dans une ville un petit peu plus proche, eh bien, créer une annexe, c'est-à-dire que pendant un certain temps, un certain nombre de mois, d'années, on va faire essentiellement ce que nous appelons des réunions d'évangélisation. Alors, chez nous, c'est quelque chose qui a lieu très régulièrement dans pratiquement toutes les assemblées de Dieu, c'est-à-dire des réunions qui sont essentiellement tournées vers des gens qui connaissent pratiquement rien de l'Évangile, ou rien du tout, parce qu'il y en a beaucoup, même parfois des gens qui se disent catholiques, ou voire même protestants. Et donc ces réunions d'évangélisation sont axées vraiment à présenter les points, les fondamentales, les fondamentaux de l'Évangile, la foi en Dieu, la nécessité de Jésus, le sens de la croix, avec la repentance, bien entendu, la nécessité d'une conversion, enfin vraiment tout ce qui est vraiment basique, nécessaire, pour qu'une personne qui connaît rien du Seigneur, ou vraiment très peu, ou des choses vraiment très déformées, puisse commencer à construire la foi. La plupart sont des gens qui sont venus par le témoignage d'autres personnes de l'Église. Et nous avons chez nous une caractéristique très... je ne sais pas si c'est particulier, mais enfin bon, nous avons des temps de prière avec ceux qui souffrent, avec les malades, avec les gens qui sont en difficulté, et une partie de notre message d'évangélisation, et peut-être qu'on pourrait dire l'accroche hein, de ce message d'évangélisation, c'est de leur montrer que Dieu a le souci de l'être humain, que leur souffrance, leur misère, eh bien, le Seigneur peut les aider, peut les délivrer, peut les bénir. Et je vous assure que quand quelqu'un a été guéri par le Seigneur ou a été sorti d'une situation impossible, c'est les meilleurs témoins qui existent. Et c'est des gens qui vont vous ramener un tas de gens parce que eux ont été secourus par la grâce de Dieu. Hein. J'ai souvent l'habitude de dire, quand je vois quelqu'un qui arrive dans un état vraiment épouvantable, je leur dis toujours, moi je ne sais pas comment Dieu va faire, mais il peut le faire. Me posez pas des questions comment, parce que souvent les gens c'est ça, comment il va faire, c'est ça pas mon problème. Hein. Moi, Dieu il fait comme il veut, c'est pas mon problème, mais il peut le faire, et attachez-vous à lui de tout votre cœur, et ça c'est quelque chose. Alors c'est sûr que une église va donc pendant un certain temps avoir une annexe, voire deux des fois, hein, et pendant un certain nombre de temps, des fois ça peut durer des années, alors il n'y aura pas forcément un culte. Mais il y aura donc ces réunions d'évangélisation. On va construire l'Église, en quelque part, donner le fondement aux gens dans leur foi. Et puis ces gens-là, on va essayer, suivant la distance, de les amener en fait à l'Église centrale, à l'Église mère. D'une part pour que ils puissent participer à une vie d'Église, être encouragés aussi par un certain nombre de personnes, parce que c'est très difficile. Quand vous avez que quelques personnes, sauf si ça démarre vraiment très rapidement, mais si ça met un certain temps, de voir qu'il y a 3 ou 4 personnes dans une assemblée, c'est pas forcément très encourageant. Alors on cherche à les amener, ça c'est un petit peu la méthode qui existe la plus souvent. Et puis au bout d'un certain temps, quand le groupe a commencé à être un petit peu formé, alors on va faire un culte, on va parfois détacher cette annexe pour qu'elle devienne une église mère qui elle-même va aller vers une autre ville ou un autre quartier de la ville pour implanter une autre annexe et ainsi de suite. C'est comme ça que les assemblées de Dieu ont fonctionné jusqu'à maintenant. Et dernièrement, là, je viens de recevoir un mail qu'on m'a lu au téléphone parce que j'ai pas l'occasion de le recevoir ici, mais d'un jeune, très jeune frère qui brûlait dans son cœur d'aller ouvrir une assemblée sur Créteil, dans la région parisienne, et donc faisait partie d'une église donc implantée dans Paris même, et avec une vingtaine de chrétiens, ils sont donc allés, donc l'église mère a accepté que cette vingtaine de chrétiens aillent s'implanter sur Créteil. Donc actuellement, ils sont dans les locaux de l'église réformée. Et ils disaient leur joie d'avoir gagné déjà quelques personnes, et notamment d'avoir fait un premier baptême ces jours derniers, avec beaucoup de joie. Ils sont aujourd'hui plus d'une quarantaine d'adultes et une vingtaine d'enfants, et ça commence à prendre un petit peu d'extension. Donc ça, c'est un petit peu la méthode qui a été souvent employée. Bon, en entendant Bernard parler de cela, mais je connais aussi un pasteur qui se trouve à Étampes, qui est un Portugais. Et quand il est venu en France pour son travail, il a commencé à rassembler quelques enfants du quartier et il leur a parlé. Il a fait l'école du dimanche. Avec ces enfants-là. Et puis les enfants ont été touchés par le Seigneur, ils ont invité la famille, les parents, et ça a été la base de l'Église qui existe aujourd'hui et qui, bien sûr, s'est développée, a grandi. Au départ, c'était en langue portugaise parce que c'était des petits Portugais, et puis bien vite, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rester simplement à vivre et à faire quelque chose dans la langue portugaise, parce qu'ils se coupaient du reste des autres, et donc ils ont ouvert, et aujourd'hui, bien sûr, c'est une église où s'il y a quelques Portugais, la majorité sont des Français de souche. Voilà.
Très bien, merci pour ces deux regards. L'intitulé de notre séminaire, c'est « Comment implanter une église concrètement ?» Vous avez entendu là des témoignages concrets. Et si vous êtes là, c'est probablement parce que vous avez tous envie d'implanter une communauté. Auquel cas, vous avez des questions qui brûlent sur votre cœur pour savoir concrètement comment vous y prendre. Alors, à vous la parole pour avoir la possibilité d'avoir des réponses. Olaf.
Vous avez parlé de créer des annexes ou aller quelque part pour ouvrir une église. Est-ce que cela se fait dans la consultation avec les églises, parfois ou très souvent présente directement dans le lieu même ou en proximité? Ou est-ce que c'est la voix du Seigneur qui dit « Mon drapeau, je vais le planter ici » ?
Alors, dans les assemblées de Dieu, on n'a pas eu trop la culture d'aller voir, faut être honnête, d'aller voir les autres églises à côté. Hein. Très souvent, parce que ça s'est fait, on pourrait dire, sans un plan préétabli, sans... Souvent parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui aspiraient à avoir une vie, quoi. Hein. Donc, bon, on s'est implanté et c'est vrai qu'on ne s'est pas trop occupé très souvent des autres. Hein. Bon, ça, c'est la vérité. Voilà.
Alors que moi, j'ai une autre approche. En fait, quand je reçois une conviction de la part du Seigneur, je ne vais évidemment pas demander l'autorisation aux autres églises. Si je peux venir implanter une église, mais je vais les voir pour leur dire plusieurs choses. D'une part, par respect, je vais leur dire bonjour. Je vais leur dire l'intention qui est la mienne d'implanter une église, tout en leur disant que mon intention n'est pas seulement d'implanter une église, mais c'est aussi de ne pas leur piquer les membres, parce que c'est pas comme ça que je conçois l'implantation d'une nouvelle église.
Alors je crois que pour ajouter quelque chose à mon propos, je pense que les choses sont en train de vraiment changer. Depuis qu'il y a des dialogues qui existent sur le niveau local, on est quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose qui devient obligatoire de se voir, et je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, je dirais totalement différemment qu'il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans. On ne s'occupait pas trop de ça, quoi. On ne s'occupait pas trop des voisins. Faut le dire, c'est comme ça.
Oui. Tu vas les voir, tu vois quoi? Tu vois la pastorale locale, tu vas voir une personne en particulier,
Je vais voir chaque pasteur en particulier. Je téléphone, et quand ils veulent bien me recevoir, je les vois, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais si ce n'était pas possible parce que la personne... Le pasteur ne voulait pas me voir, mais je lui expliquais en deux mots au téléphone, mais c'était plutôt direct, dans le sens où presque à chaque fois que je suis allé implanter une église quelque part, il n'y avait pas de pastoral déjà en établi, je dirais, dans la ville.
Alors, avant d'aller plus loin, il me paraît intéressant qu'on on s'applique peut-être à une forme de réflexion ensemble autour de questions, parce que je vois que nos intervenants ont préparé des questions à nous poser ensemble, peut-être pour faire réagir, plutôt que de simplement essayer de répondre à des problématiques très, très personnalisées. Alors, est-ce que je peux vous laisser présenter les questions que vous avez posées,
oui,
pour que nous puissions incrémenter ce débat?
Est-ce que vous pensez, la première question qu'on aimerait vous poser, hein, pensez-vous qu'il y a assez d'églises évangéliques en France? Bon, on a quand même un peu la réponse, hein. Et sinon, quelles sont selon vous les raisons principales de cet état de fait? Pourquoi il n'y a pas qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est un vaste débat. Mais est-ce qu'on pourrait, avoir 2, 3 ou 4 traits qui vous semblent les plus importants qui font que ça bloque?
William?
Oui, alors c'est en fait l'encouragement des dons et de ne pas bloquer les dons qui peuvent exister dans les églises, notamment dans le sens de l'évangélisation.
Frédéric ? Moi j'ai remarqué aussi une chose, c'est que bien souvent on est prêt à former effectivement des gens pour les faire rentrer non seulement du discipulat, mais dans une activité spirituelle et une grandeur, une maturité, mais que quand la personne... si elle est en plus relativement jeune, arrive dans cette maturité, qu'elle commence à grandir dans cette maturité, forcément elle est encore jeune mature, on va dire, et bien on commence à avoir peur finalement que de cette maturité puisse prendre une place importante à l'intérieur de l'Église. Et on va soudainement commencer à la couper et à l'empêcher de rentrer dans ce qu'elle ressent et ce qui bouillonne au fond d'elle. Parce qu'évidemment, elle va le manifester d'une manière différente de ce que, finalement, peut-être, celui qui est là voudrait qu'elle le manifeste comme ça, et elle le ressent d'une autre manière. Et on a peur de la nouveauté, on a peur, finalement, de la manifestation de la maturité personnelle à l'intérieur d'une personne. J'ai remarqué ça aussi.
Alors, on va devoir saluer Bernard Delépine, qui est obligé de nous quitter pour des raisons de transport. Donc, merci Bernard pour ton apport. C'est...
Si vous avez des questions, je veux bien vous répondre par mail.
Voilà, on vous donnera l'adresse.
Voilà, est-ce qu'on peut encore quelques éléments? Parce que c'est
alors,
intéressant.
Le frère et puis Wendy après, oui.
J'avais juste pensé à des aspects, c'est que, moi-même, je suis évangéliste, et il me semble que les difficultés qui sont les miennes, que je vois aussi dans le cadre de l'implantation de l'Église, c'est quand même une pression des médias sur l'esprit de nos contemporains qui fait qu'il crée des fossés qu'on a de la peine à franchir parce qu'on n'a pas les outils pour faire face à des pressions. On se sent culpabilisé, on se sent écrasé, il y a toute histoire de bouche avec... Et donc, tout ça, on ne sait pas bien se situer facilement en tant que quelqu'un dans son foyer, ou vivant même dans une communauté, pour faire face à des choses qui sont lourdes à porter. Et on n'a pas toujours les responsables d'église, je ne parle pas pour l'église, mais il me semble qu'il y a un manque de soutien des responsables d'église dans cela.
Donc faire face, je répète pour le simple enregistrement, faire face à la pression des médias. Donc c'est une question qui touche l'apologétique, là. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces pressions? Et deuxièmement, le soutien des responsables d'église.
Le bâtiment collectif ne devrait pas être la seule vision des chrétiens qui composent l'église locale.
Donc l'église pourrait être plus nombreuse que ce qu'on pense si on tient compte des réseaux de chaque famille chrétienne. Hein? Remarque intéressante. Est-ce que tu veux réagir, Marc, là-dessus?
Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on... Je pense que c'est très personnel de se laisser, écraser par ça. Nos églises ont toujours été pratiquement perçues comme des sectes. Et je veux dire que, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. J'en ai rien à faire. Et puis, je veux dire qu'il y a des tas de pays dans le monde où il y a une pression infiniment plus forte, l'islam, le communisme à une époque, et ça ne les a pas empêchés de progresser et de se développer et de témoigner et de vivre la foi qui parfois nous fait envie. Donc je veux dire, c'est aussi un élément psychologique dans lequel on s'enferme, et je crois qu'il faut qu'on sorte de ça vraiment, de tout notre cœur.
Voilà, je vais donner la parole à Wendy, si vous permettez, pour partager le temps de parole, oui. Donc problème d'information de l'Église, de la vision, de la stratégie, et donc l'accompagnement dans la prière. Est-ce qu'on passe à la deuxième question ?
À moi qui est vraiment, il faut dire le frère là-bas, il avait dit.
Oui. Donc des problématiques immobilières et matérielles qui viennent décourager l'élan et ralentir l'élan.
Ça, c'est un vrai problème. De toutes les façons, ça, c'est un vrai problème. À partir du moment où une église commence à grandir, eh ben, se pose le problème forcément des locaux. Et ça, c'est un vrai casse-tête. Et plus l'église grandit, plus c'est un vrai casse-tête. C'est vrai. Alors, moi, je voudrais poser une autre question, c'est-à-dire une réflexion. Pour ceux qui sont responsables d'une église, est-ce qu'on est prêt à envisager des implantations d'annexes ? Si oui, où, quand, comment et avec quels moyens ? Et puis, peut-être la question qui va avec, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'une partie de l'église puisse déménager et aller s'implanter ailleurs ? Par exemple, l'église de l'Assemblée de Dieu de Versailles, qui compte un certain nombre de personnes avec des cultes où on n'avait plus la place d'entrée, ont décidé d'implanter une église sur voisin le Bretonneux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un nombre assez important de gens qui habitaient dans cette région-là. Et donc, ils ont acheté un local, ils ont implanté maintenant une église qui doit avoir 80 ou peut-être 100 personnes, je ne sais plus exactement. Ce qui veut dire que, et puis une autre annexe un petit peu plus loin, ce qui veut dire que la dernière fois où je suis allé faire un culte sur cette église de Versailles, c'était assez impressionnant parce que je n'avais pas vu entre les deux, l'église était divisée par deux. Quoi. C'est-à-dire que, alors qu'on arrivait au culte où il n'y avait plus de place, et c'était une histoire pas possible pour se trouver une place dans le culte, là, il y avait la moitié des gens. Et je veux dire, il faut du courage pour faire ça. Et je trouvais que c'était... moi, je salue ça, parce que je trouve ça assez extraordinaire.
Avant de vous laisser réagir, je dirais juste deux choses pour faire écho à ce que dit Marc, c'est qu'il y a des divisions qui peuvent produire des multiplications. Elles ne sont pas toutes mauvaises.
Et en relation, hein,
les églises, hein. Oui, on est d'accord. Et j'ai souvenir ce qu'une église en Angleterre, à Londres, une assez grosse communauté, mais pratiquant cette implantation, dit régulièrement, elle dit, pour implanter une église, vous devez envoyer les meilleures personnes de votre communauté. Les meilleures. Parce que vous avez la possibilité de continuer à former des gens dans votre communauté. Mais eux, pour implanter, ils doivent être au bénéfice des meilleurs ministères qui sont au milieu de vous. Donc ça, c'est quelque chose à travailler, à réfléchir. Alors, est-ce que vous voulez réagir à ça ?
Oui. Est-ce qu'il y a un seuil ? Est-ce
Ouais. Moi je pense que voilà, c'est très difficile à manier parce que c'est vrai que tout dépend un peu de la motivation des gens, des chrétiens, tout dépend aussi de la motivation des pasteurs. Moi je suis très très adepte du leader, hein, je crois beaucoup à ça, parce que sur le terrain j'ai vérifié que si vous n'avez pas de leader, vous n'avez rien, il ne faut pas se leurrer, et je crois qu'il faut qu'on ait des leaders, bien sûr il ne faut pas que ce soit des dictateurs, mais je pense des leaders qui marchent devant, qui entraînent, bon. et je crois que c'est important. Alors c'est vrai que si une église qui a 30 personnes se divise en 2 fois 15, je veux dire c'est pas viable, faut pas rêver. Donc c'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a des seuils. Moi, il me semble qu'une église, à titre personnel, hein, alors, pour moi, une église est vraiment, me semble-t-il, une église majeure quand elle atteint une centaine de membres. Parce que je trouve qu'il faut qu'il y ait. Alors après, elle peut essaimer. Bon, elle peut essaimer avant. On a des exemples comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a il y a des seuils critiques. Alors, tant qu'on fonctionne avec des gens qui vont travailler, un peu comme Bernard l'a fait pendant, ça pose pas de problème. On est un petit groupe, on est dans un pavillon. Bon, très bien. On est 3, 4, 5, 10, très bien. Mais dès que ça commence à se développer, il va falloir envisager, est-ce qu'on veut soutenir un pasteur ? Est-ce qu'on veut faire face à tous les frais des ministères ? Et bon, si on veut faire face vraiment, sans aide extérieure, aux frais du ministère, on sait qu'il faut un certain nombre de personnes, parce que sinon on ne l'aura jamais. Donc je veux dire, là on entre un petit peu dans des types d'églises un petit peu différents.
Je vais me permettre, hein, oui, travaillant avec Bernard Delépine depuis quelque temps, de me faire l'écho de ce qu'il pourrait éventuellement dire, s'il était là. C'est vrai qu'on parle de l'implantation d'église, là, par la notion d'essaimage, plus que par la notion de travail pionnier pur. Ouais. On y reviendra parce qu'il y en a parmi nous qui ont à cœur cela. Mais je crois que la notion de la force de l'église mère, c'est doit être prise sous différents angles. C'est pas automatiquement la taille qui fait la force, mais la taille a son sens. Dans notre union d'église, dans la Fédération Baptiste, nous, moi c'est moi qui circule maintenant, c'est moins Bernard, mais nous disons sous le ton de la boutade, hein, pour encourager les églises à pouvoir implanter, on dit, vous savez, les normes ont changé, les Français ont grandi, hein, de 5 cm ces dernières années, il paraît, donc les normes dans les bus ont changé pour les poignées d'accroche, donc dans la Fédération Baptiste aussi, les normes ont changé, la taille normale d'une église, c'est plus 50 membres, c'est 150. Alors bien sûr, on nous regarde un peu étonnés, estomaqués, mais pour dire que à 50, c'est vrai que c'est très difficile, on peut être très satisfait, ça peut tourner et être très correct, mais c'est très difficile qu'une église 50 membres implante une autre communauté. On dit 150 pour en avoir 100, hein, mais en encourageant par là, disant que la croissance physique, numérique, en quelque sorte, en tout cas est un gain pour pouvoir développer ce genre de travail d'implantation, développer une vision. Donc développer une vision d'évangélisation, c'est aussi quelque part accepter soi-même de muter, de changer, hein, dans une certaine dimension. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion de travail pionnier, peut-être de manière un peu plus pointue, avant d'aborder un dernier point, s'il y a des remarques ou des questions, sachant qu'un travail pionnier peut être soutenu aussi par une église. C'est-à-dire que là, on parle par des missions, on parle là d'essaimage, mais on peut aussi envoyer une personne qui a un ministère pionnier et qui peut être soutenue par une communauté locale. Je ne sais pas si les pionniers qui sont parmi nous entendent ça assez facilement. Donc si on prie, je répète la question pour l'enregistrement, si on prie pour une personne dans la rue qui a des besoins, est-ce que de quelle manière c'est suivi, hein, Marc ?
Mais nous, on pense que c'est très important d'emmener les gens le plus vite possible à l'église. Parce que je crois que l'église a un ministère
Et moi, je dis toujours aux gens, la première prédication que les gens de l'extérieur reçoivent, c'est pas du pasteur, ni même de l'évangéliste, c'est de l'Église. Parce que, vous savez, quand on prêche, et que vous avez devant vous des gens qui connaissent rien aux choses de Dieu, et que vous en avez plusieurs, vous les voyez, c'est très simple. Ils sont là, ils regardent l'un, ils voient l'autre qui prie, qui chante, ils sont souvent complètement estomaqués parce que ils n'ont jamais vu des gens chanter à tue-tête leur foi, se saluer, s'accueillir. C'est ça la première prédication. C'est pour ça que je crois profondément que si on veut faire un bon travail d'évangélisation, il faut qu'on ait aussi une bonne église solide, qui est cet accueil. C'est une église qui n'est pas en bon état, elle ne va pas évangéliser et elle ne va pas gagner des gens. Enfin, ça, c'est ma conviction. Hein. Parce que je crois que les chiens ne font pas des chats et les chats ne font pas des chiens. Chacun va enfanter selon son espèce. Et donc, je veux dire, si l'église, déjà, elle n'est pas bien, il y a des histoires. J'ai le redoutable privilège de m'occuper. À Orléans, on fait des cultes, on fait deux cultes parce qu'on n'a pas les locaux pour, mais on rassemble à peu près 300 personnes, plus 80 enfants. Enfin, moi, c'est. Et puis, si ça vient de partout, il y a des gens tout le temps, on fait des cultes avec 40 ou 50 nouveaux, des fois. Et puis, nos réunions d'évangélisation. Mais je fais aussi, je m'occupe et je me suis donné ça comme défi, une petite église qui était voire mourante. Pourquoi ? Parce que depuis des années, ils vivaient entre eux, ils se mangeaient le nez les uns les autres. J'ai jamais vu tant d'histoires au centimètre carré. Résultat, je fais un culte chaque dimanche avec 10 personnes. Et c'est pour moi un grand sujet, comment dirais-je, à la fois de fierté et en même temps de me dire, il faut que tu montres ce que tu as dans le ventre. Et il y a besoin que la mentalité change. On va pas gagner les gens à l'extérieur si à l'intérieur ils sont pas en bon état. Donc on a commencé à travailler déjà sur l'état de santé de l'Église. Et puis peut-être que vous allez me trouver bizarre, mais moi j'ai commencé à prier pour que le Seigneur enlève les gens qui me bloquaient tout, parce que au bout de 5 ans, j'en pouvais plus. Alors j'ai dit, c'est ça où on met la clé sous la porte, et j'avais quelques idées sur la chose. Mais la chose la plus étonnante, c'est que le Seigneur a enlevé les gens que je pensais pas, et il m'a laissé les gens que j'avais pas trop envie qu'il me laisse. Et je fais avec. Et pour moi, c'est un grand défi et je veux le relever de tout mon cœur. Vous voyez, je crois que pour moi, amener les gens à l'Église, je crois dans le ministère de l'Église. Et je crois que les gens sont touchés par l'Église. Et souvent, c'est au bout de la deuxième, troisième ou quatrième fois qu'ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas à s'agiter derrière son pupitre ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ?» C'est là où ils commencent à entendre et à être interpellés. Mais moi, je suis convaincu que le premier message d'évangélisation, c'est l'Église qui le donne. Et si l'Église le donne mal, c'est fichu.
Voilà, alors on s'approche progressivement de la fin. Je vois que ce n'est pas le conseil des passagers, personne ne fait haut. Hein. Mais il y a une intervention.
Tout à l'heure des barrières et pourquoi on ne voit pas trop d'églises implantées, et c'est peut-être dans ces mots-là que c'est l'église elle-même, je parle locale, qui peut-être des barrières, et peut-être quelquefois on se rend compte que le dernier endroit pour emmener les gens, c'est l'église, parce qu'on a parlé aussi de cette idée de communauté. L'église, c'est pas un bâtiment, c'est les personnes. Fondamental, mais c'est le fait que si nous vivons la vie de Christ, l'amour de Christ et toutes ces choses-là, j'espère que ça attire aussi.
Donc, vous prenez le contre-pied un petit peu de ce qui vient d'être dit, mais c'est intéressant parce que ça nous amène peut-être à dire « Je suis fier de l'Évangile, mais pas toujours de mon Église. » quoi. Donc, quelque part, dire « Je suis fier de l'Évangile », c'est aussi pouvoir dire « Je suis fier de la fraternité que je vis dans l'Église » pour pouvoir y inviter sans peur des personnes.
Les gens soient fiers de leur Église pour emmener les gens, hein. Ça c'est clair.
Voilà, peut-être une ultime intervention, oui.
Thank you.
Donc là, comment conseiller des personnes, 5 personnes perdues au creux d'une vallée, qui ont à cœur vraiment qu'il y ait un réveil spirituel, qui collaborent avec la paroisse réformée, mais qui ont envie que ça aille plus loin?
Moi, je crois que c'est important d'être rattaché quand même à un groupe d'églises qui ont la même vision et qui peuvent soutenir spirituellement. Moi, il me semble que c'est très, très important. Je pense que nous l'avons noté au cours de ce séminaire, enfin de tout cet ensemble, il y a quand même du découragement. Et je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens de s'encourager les uns les autres. Qu'on se donne les moyens, pardon. Ou d'églises qui sont peut-être un petit peu plus loin, mais qui peuvent, avec lesquelles on a une même sensibilité spirituelle, dans lesquelles on peut se sentir bien, et qui acceptent aussi, parce que c'est pas simplement un nom sur une feuille de papier, c'est aussi un travail de cœur à cœur. Mais c'est intéressant cette question, parce que il y avait une question un petit peu qu'on voulait mettre en parallèle avec si vous êtes responsable d'église, est-ce que vous accepteriez d'un essaimage, mais c'est si vous êtes des chrétiens d'une église, est-ce qu'on accepte facilement de dire on va laisser notre église dans laquelle on est tellement bien, c'est tellement formidable, et de se dire on va aller dans un coin où il n'y a rien, ou dans un quartier un peu difficile, parce que c'est pas évident, hein, de d'y habiter, de s'y implanter, avec peut-être, comme Bernard a pu le dire tout à l'heure, avec des familles, et puis d'être là pour... Excusez-moi, j'ai oublié de le couper. Donc, je crois que... c'est une question sur laquelle il faut réfléchir. C'est-à-dire, le confort personnel... Et puis le désir de servir Dieu. Mais je pense qu'il faut le faire de façon intelligente. Pas n'importe quoi.
Voilà, l'heure tourne, donc on va devoir s'arrêter. Toujours est-il qu'il y a des...
Johan, il y avait une question qui lui brûlait les lèvres, je le sens trépiner sur sa chaise.
Mais enfin, en tout cas, je crois que ça révèle un certain nombre de problématiques de remise en question. Ça, c'est tout à fait d'accord.
Moi, maintenant, je ne pense pas qu'une église de 200 ou 300 personnes soit une grosse église. Parce que sur une ville de 300 000 habitants, c'est un noyau de cerise.
En tout cas, il y a les quartiers, puis il y a les vallées.
Je trouve que c'est beau d'aller, d'avoir le désir. Moi, je suis très touché par les campagnes, etc. Parce que souvent, c'est difficile. Je sais pas si j'ai
juste dire, ça.
Les assemblées de Dieu, dans leur essaimage d'une église à une annexe, ont touché en fait les grands centres urbains, les régions qui sont peuplées, mais ont eu beaucoup de mal à s'implanter dans des campagnes, parce que le tissu est beaucoup plus diffus.
Voilà, et on va terminer par la prière, parce que je crois que c'est bien de récapituler dans la prière. Je vais demander à Johan de bien vouloir prier courtement avec Wendy aussi. Donc à ces deux voix, nous allons nous unir pour dire Amen.